vous êtes sur Colline, c'est l'édition de la mi-journée et à midi 2, voici toute l'info près de chez vous. Édition présentée par Fabien Gazot. Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. Le syndicat du Val-de-Loire a un nouveau président, la personne de Jean-François Moreau. Le maire délégué de Noirterre connaît déjà bien la maison. L'usage du téléphone au volant durement sanctionné à partir du 15 juin. Nous verrons ce qu'en pense la prévention routière. Vous entendrez le député Jean-Marie Fievé à propos de sa campagne d'affichage qui interpelle. La démocratie est en péril, 100 ans après les années 1930 qui avaient déjà fait vaciller le modèle. On en débat ce soir à Thouars. Et puis, ne manquez pas l'occasion d'aller soutenir les Sourires d'Or ce week-end à la Chapelle Saint-Laurent. Jean-François Moreau, élu président du SVL, hier soir le maire délégué de Noirterre, adjoint au maire de Bressuire, succède à Dominique Régnier. Il connaît très bien le comité syndical du Val-de-Loire puisqu'il a intégré en 1994 en tant que stagiaire le comité pour y réaliser un mémoire en fin d'études d'ingénieur. Avant un vote large en sa faveur, Dominique Régnier, qui a œuvré pendant 12 ans à la présidence, a rappelé dans les grandes lignes les missions du SVL qui compte 41 000 abonnés en Nord-de-Sèvres sur les territoires de l'Aglo de Bé, du Thouarsais et de l'Hervaudais pour un total de plus de 85 000 habitants. Jean-François Moreau, qui a déjà occupé un poste de vice-président dans le passé, se place dans une logique de continuité guidée par la bonne qualité du service attendu par la population. Il s'est fixé 3 objectifs majeurs. Il est au micro de Patrice Bémanangy.
On sait qu'avec le dérèglement climatique, on peut avoir des hivers plus secs et du coup des problèmes de remplissage du Sébron. Donc il faut qu'on continue à sécuriser nos interconnexions entre nos 3 sources d'approvisionnement pour éventuellement basculer sur l'une ou l'autre. Et puis donc continuer des travaux de rénovation toujours de nos infrastructures. Le syndicat a détruit des infrastructures certaines en 70 ans, à l'âge du syndicat. Donc il faut continuer à rénover. Et puis 2500 km de canalisation, ça se fait pas... comme ça, il faut en faire régulièrement. Et puis l'enjeu supplémentaire que je vois qui est important pour moi, c'est la qualité. C'est important pour les habitants. La question de la qualité de l'eau se pose de plus en plus souvent. Moi, j'y vois un enjeu important, rassurer les gens. On entend dans les médias qu'un Français sur deux préfère l'eau en bouteille à l'eau du robinet. Je trouve ça dommage, puisqu'on a une eau de très bonne qualité au syndicat du Val-de-Loire. Donc, envie de rassurer sur la qualité de l'eau et de communiquer sur la bonne qualité de l'eau qu'on distribue aux abonnés.
Jean-François Moreau, le nouveau président du SVL, élu hier soir, ainsi que Roland Morisseau, maire de Sainte-Gemme, représentant le Thouarsais en tant que premier vice-président, et l'adjoint au maire de Cerizay, Jean-Pierre Baudin, élu pour sa part second vice-président. Les élections également au Sieds. Daniel Joly, maire de Romans, a été élu président du syndicat d'énergie des Deux-Sèvres. 7 vice-présidents ont également été élus. On peut citer Jacques Billy et Claude de Boisson sur le Niortais, le maire de Nommé-des-Aubiers, Serge Bouju, ou encore le Thouarsais, Hervé Chauvin, et le maire des Châteliers, Nicolas Gamache. Le sénateur Philippe Mouillet figure dans le bureau en sa qualité d'élu de Maucoutan-sur-Sèvre. Les Deux-Sèvres, 6e département à durcir le ton au sujet du téléphone au volant. La Charente-Maritime l'a fait tout récemment. En début de semaine, le préfet des Deux-Sèvres a indiqué avoir donné des instructions aux forces de l'ordre pour plus de fermeté face à ces infractions qui multiplient par 3 les risques d'accident en augmentant nettement le temps de réaction du conducteur. Ainsi, à partir du 15 juin, toute infraction relevée pour usage d'un téléphone tenu en main en conduisant fera l'objet d'une suspension de permis pour une durée de 15 jours. Écoutez la réaction de Bernadette Ducor, la directrice régionale de l'association Prévention Routière.
Les usages se multiplient, les téléphones évoluent en permanence et on se rend pas forcément compte dans quelle mesure voilà ces outils qui ont envahi nos vies nous polluent et nous empêchent effectivement d'agir avec toutes nos capacités. Donc pour la conduite en particulier, c'est à la fois une distraction et un problème effectivement même de concentration, de mobilité même, parce que si on a le téléphone dans la main, ben on est moins habile au volant. Donc il y a plusieurs problématiques qui sont présentes.
Et le pire, c'est de lire son téléphone au volant.
Oui, tout à fait, effectivement. On dit que lire un téléphone, un SMS au volant, ça peut multiplier par 23 le risque de causer un accident.
Une suspension de permis pour 15 jours, est-ce suffisant ?
Mais ça varie. Alors en général, c'est déjà une grosse sanction, je pense, pour un certain nombre d'usagers, parce que c'est des personnes qui ont je pense, la plupart du temps besoin de leur véhicule pour se déplacer, pour travailler. Voilà. Après, la sanction peut varier effectivement en fonction de l'usage qui a été fait. S'il y a eu une autre infraction, ça peut aller de 15 jours à 6 mois. Donc ça, c'est à l'appréciation de l'État.
Et c'est donc à compter du 15 juin que va entrer en vigueur la suspension de permis de 15 jours en cas d'utilisation du portable au volant. La campagne d'affichage de Jean-Marie Fievé interpelle. Vous avez peut-être vu ces dernières semaines, derniers jours, les affiches du député avec sa photo et ce slogan « Agir pour vous », une communication que l'on retrouve habituellement en campagne électorale. Alors pourquoi et avec quels moyens ? Question que nous avons posée ce matin à Jean-Marie Fievé.
Je me suis rendu compte qu'en fait, les seuls qui collaient les affiches aujourd'hui, c'était le Rassemblement National. Et je pense qu'il était important, justement, et si vous l'avez vu, c'est que tout le monde les voit. Donc je me dis, faut aussi montrer qu'il n'y a pas que le Rassemblement National qui existe, mais que toutes les forces politiques sont présentes sur le terrain tout le temps.
Alors ça veut dire que 2027 est déjà lancé ?
Non, c'est pas ça du tout. Je pense qu'il n'y a pas de campagne électorale en jeu actuellement, il n'y a rien du tout. Le seul truc, c'est que je ne veux pas qu'il y ait rien qui colle partout des affiches et sur des lieux d'ailleurs non autorisés. Mais nous, on colle aussi également pour dire qu'il n'y a pas que le RN qui existe, il y a tous les autres, et que les hommes politiques sont engagés tout le temps. Faire de la politique constamment et l'affichage fait partie de la politique.
Alors un mot sur le financement de cette campagne d'affichage, comment vous la financez ?
Alors c'est partie de mon budget communication, j'ai demandé l'avis du déontologue, il n'y a aucun souci pour ça.
Budget qui vous est accordé par l'Assemblée nationale. Hein.
Oui tout à fait, c'est comme vous savez quand souvent les députés qui font des lettres d'information régulièrement à leurs concitoyens de leur circonscription, moi je ne fais pas de lettres, voilà, et donc le budget je l'utilise différemment, avec accord bien sûr du déontologue.
Jean-Marie Fievé, le député nord de Sévrien, à propos de cette campagne d'affichage. L'enjeu de la démocratie en débat au Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars, démocratie en péril, le spectre des années 1930, tel est le thème de ce rendez-vous donné au C2RL qui accueille Renaud Meltz pour une conférence débat ce soir. Poussée des régimes autoritaires, démocratie grignotée par les nationalismes, fièvre monétaire, risque majoré de conflits internationaux, les années 30 semblent trouver de nouvelles résonances un siècle plus tard. Renaud Meltz est docteur en histoire, il est auteur de La France des années 1930, Les épreuves de la République, et il est au micro colline de Dominique Hérault.
On a moins de démocratie que jamais, et ça c'est vrai qu'on a connu ce retournement dans les années 30. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de la répétition, de bégaiement de l'histoire, mais c'est plutôt l'idée que si on s'inscrit dans le temps long, en fait, la crise de la démocratie barrage, elle est quasiment permanente parce qu'elle réunit des exigences ou des espoirs ou des projets qui sont très difficiles à concilier. La démocratie telle qu'on la conçoit, nous, depuis le 19e siècle, elle est entièrement renouvelée par le libéralisme, par le statut de l'individu qui a des libertés qui ne sont pas seulement des libertés collectives, mais qui sont la liberté, en gros, de faire ce que je veux, comme je veux, parce que je suis autonome. Et en fait, cette alliance-là de la démocratie libérale, c'est pas seulement dans les années 30 qu'elle va mal, en fait, elle rentre en crise dès lors qu'une des deux exigences, l'idéal, on va dire, libéral d'émancipation de l'individu, ou l'idéal démocratique d'égalité des individus, prend trop le pas sur l'autre. Depuis quelques décennies, on peut dire que l'idéal libéral s'est bien défendu, mais que l'idéal de l'égalité a été largement sacrifié et que ça fait rêver d'autres modèles, de contre-modèles qui pourraient briser les intérêts privés qui empêchent l'égalité au sein du groupe.
Le tableau est assez abîmé, mais pas définitivement condamné. La démocratie donne-t-elle des raisons d'espérer en elle-même ? Écoutez la réponse de Renaud Meltz.
Oui, parce que la marge de progression possible, c'est de réaliser l'égalité sociale et économique, et il y a des modèle pour ça, c'est abolir sinon complètement le capitalisme, introduire la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire arrêter de croire qu'on peut être des citoyens dans la cité et des esclaves dans l'entreprise. Alors je dis pas qu'on est des esclaves, mais on est en monarchie d'entreprise, et donc le modèle c'est la démocratisation, et ça peut prendre notamment la forme de la coopérative de producteurs ou la coopérative de consommateurs, et ça c'est un modèle de démocratisation sociale qui ne fait que commencer, mais qui peut s'épanouir.
Démocratie stop ou encore, selon une formule consacrée Laurent. Rendez-vous, c'est ce jeudi 21 mai à 21h au C2RL de Thouars, reportage de Dominique Hérault. La chapelle en folie ce week-end pour les sourires d'or pendant deux jours, samedi 23 et dimanche 24 mai, la chapelle Saint-Laurent se mobilise pour soutenir les sourires d'or, une association qui s'est créée en début d'année afin de soutenir Sloane, un petit garçon de 3 ans atteint d'une maladie dégénérative et incurable survenue l'été dernier Et si l'équipe du CHU d'Angers fait un travail extraordinaire, ses parents font face aux difficultés du quotidien et notamment les tracasseries administratives et les problèmes matériels. Mathieu Fillodeau.
Tout s'est passé très vite parce qu'en 4 mois, il a perdu toute la motricité de son corps, il a perdu la faculté de s'exprimer, de parler, la possibilité de manger aussi par voie orale. Donc ça a été très très vite et on a des... Enfin, moi j'ai découvert le monde du handicap que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est très compliqué de vivre avec un enfant handicapé car beaucoup de choses ne sont pas adaptées. On remplit des dossiers quasiment tous les mois pour avoir le droit à des aides. Et aussi, on doit, faire des recherches pour trouver du matériel adapté à l'enfant. Et le matériel n'est pas forcément pris en charge et ça coûte aujourd'hui... très cher.
On peut prendre l'exemple du fauteuil roulant.
Oui, tout à fait. Donc, il y a eu une réforme en décembre dernier sur les fauteuils roulants. On entendait dire que les fauteuils roulants étaient 100% pris en charge par la Sécurité sociale aujourd'hui. Ce qui n'est pas totalement faux, mais pas entièrement vrai non plus. Et aujourd'hui, donc, la Sécurité sociale a réduit ce nombre de références, quasiment divisé par 10, hein, pour les faire, rembourser à 100%. Mais tous les autres modèles qui étaient nécessaires à certaines maladies ne sont plus pris en charge.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, Sloane dispose d'un fauteuil de prêt, pas complètement adapté à son handicap. Avec les sourires d'or, Mathieu Fillodeau, dont la compagne a dû arrêter de travailler pour s'occuper de leur fils, veut faire avancer les choses auprès des pouvoirs publics, mais aussi dans le regard des gens. Ainsi, 5 familles viendront témoigner ce week-end à la Chapelle Saint-Laurent, une parole sans doute très forte, mais dans un environnement festif.
Alors on a créé cet événement, donc la Chapelle en folie, tout est possible. Donc ce week-end, l'objectif c'est vraiment de faire ouvrir le regard des gens, que les gens n'aient pas peur d'aller voir les familles avec un enfant handicapé, de poser des questions, car aujourd'hui, moi le premier, je ne connaissais pas le monde du handicap, et il est important aujourd'hui de le connaître, d'apprendre à vivre avec ces personnes-là, de pouvoir accepter qu'un enfant handicapé aille à l'école avec vos enfants. Aujourd'hui, on estime à environ à 720 000 enfants handicapés, un handicap visible et non visible, hein.
L'association Les Sourires d'Or, elle est jeune, mais elle a déjà pas mal de soutien. Hein. Illustration ce week-end avec la Chapelle à Nîmes, le club de VTT aussi qui sera à vos côtés. Enfin, en tout cas, il y a quand même une vraie mobilisation autour de vous.
Oui, parce qu'au final, quand on regarde, ça touche tout le monde, le monde du handicap. On connaît tous autour de nous une personne en situation de handicap. Et aujourd'hui, avec l'événement, donc on a mis très peu de temps à le construire. C'est plus de 80 bénévoles qui se sont portés volontaires pour nous aider. Plus de 25 partenaires.
La Chapelle en folie dans le cœur de la Vallée Verte qui sera très animée samedi et dimanche 23 et 24 mai avec des structures gonflables géantes, des animations sportives et festives, des randonnées pédestres et VTT. Et il y aura aussi un marché de producteurs. À Cerizay, la direction de Proxy a annoncé la fermeture du magasin suite à une liquidation judiciaire. Malgré nos efforts, le manque de clientèle ne nous permet pas de poursuivre l'activité. Est-il inscrit sur la devanture. Le magasin sera ouvert exceptionnellement samedi avec une remise de 25% pour vider le stock. En football, Clazet Bocage a annoncé l'arrivée de Benoît Guichet sur le banc pour la saison prochaine. Expérimenté, il a déjà officié à Montcoutan en tant qu'adjoint et à Bouhamé-Clessé en tant qu'entraîneur principal.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le beau temps s'installe vraiment à partir de ce jeudi. Le ciel est bleu, sans nuages. Les températures montent en flèche cet après-midi jusqu'à 28 degrés. Il fera encore plus chaud demain, vendredi, jusqu'à 31-32 degrés. Et le week-end de Pentecôte aussi s'annonce chaud et parfaitement ensoleillé. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy. Bon après-midi.